Parvenir, je vous connaissais par cœur, du temps qu'on vous levait dans le crâne. C'est l'évangélie de Sandy, l'annonce de l'évangile dans le monde moderne, un texte de 75, de Paul VI, qui n'a pas pris une ride que les papes suivants n'ont cessé de citer. Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. Numéro 64. C'est grâce à l'appui du Saint-Esprit que l'Église grandit. Il est l'âme de cette Église. Les techniques d'évangélisation sont bonnes, mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l'action discrète du Saint-Esprit. Nous vivons dans l'Église un moment privilégié de l'Esprit. On cherche partout à le connaître mieux. On est heureux de se mettre sous sa confiance. On s'assemble autour de lui. On veut se laisser conduire par lui. Le Père Joseph s'était arrivé à l'instant. On peut dire que l'Esprit Saint est l'agent, l'acteur principal de l'évangélisation. C'est lui qui pousse chacun à annoncer l'Évangile. Et c'est lui qui, dans le tréfonds des consciences, fait accepter et comprendre la parole du salut. Depuis deux débuts, nous avons besoin de cette force, comme dit Jésus, ce dynamisme. D'ailleurs, il dit aux apôtres, restez dans la ville tant que vous n'aurez pas reçu la force d'en haut. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous sentons tellement faibles devant des problèmes tellement énormes, et en particulier devant ce défi d'annoncer l'Évangile dans le monde contemporain. Alors, on a bien une première raison, d'appeler l'Esprit Saint. Nous sommes conscients de notre faiblesse, de notre pauvreté, de notre peu d'imagination, de notre peu de courage. Enfin, lui, se dit peu, pourrait s'allonger. Et justement, la faiblesse qui est la nôtre n'est pas un handicap. Elle n'est pas non plus une excuse. Ah oui, ça, je vois venir. Moi, je ne sais pas trop. Je n'ai pas fait beaucoup de théologie, je suis timide, et puis je n'ai pas le temps, enfin voilà, je vais vous donner des arguments, mais on est faible, donc du coup, on va se mettre un peu en marche de l'évangélisation. On attendra d'être plus fort, on fera ça plus tard. Mais non, justement, ma faiblesse est précisément une grâce. Vous savez bien que c'est ce que saint Paul nous explique dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 5-10. Il évoque les révélations qu'il a reçues, c'est extraordinaire. Il a été envoyé au troisième ciel. Mais, pour que je ne fasse pas le malin, il y a une espèce de décharge dans ma chair. Un envoyé de Satan qui vient m'embêter, me gifler. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré ma grâce te suffit. Car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Heureusement, nous ne sommes pas trop doués et pas trop forts, parce que sinon nous allons croire que c'est nous qui sauvons le monde. C'est donc très volontiers que je mettais plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ Jésus fasse en moi sa demeure. Voilà pourquoi j'accepte de grande gueule pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes. Et vous pouvez continuer la liste. Ce qui nous empêche de vivre comme on voudrait, de prier comme on voudrait, de témoigner comme on voudrait. Même les persécutions, les situations angoissantes, j'accepte tout ça de grand cœur. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Peut-être que en Occident, l'Église n'a jamais été aussi faible. Jamais en France. Mais c'est maintenant que nous sommes forts. C'est pas quand on avait tous les moyens du monde, toutes les richesses du monde, tous les pouvoirs du monde. C'est maintenant. Ta faiblesse, l'espace où se déploie la force de l'Esprit Saint, justement. Une deuxième raison d'appeler l'Esprit Saint, de nous ouvrir à l'Esprit Saint, c'est parce que nous savons que l'essentiel se passe à l'intérieur. Peut-être nous avons été mis en groupe même par des signes très forts, nous avons été bousculés, nous avons été impressionnés, nous avons été secoués. Oui, mais ce n'est pas la secousse extérieure qui est la plus importante. C'est le toucher intérieur de l'Esprit Saint. S'il n'y a pas ça, c'est du provisoire. C'est un battement de cœur, c'est extraordinaire, c'est un emballement. Puis 8 jours après, il n'y a plus rien du tout. Ce n'est pas les gros coups qui font avancer l'Église. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps remuer le monde et puis mettre des affiches dans les rues et puis je ne sais pas quoi encore. Oui, mais l'essentiel se joue à l'intérieur, dans le profondeur du cœur. Et là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut y aller. Et déjà dans notre propre cœur. Ça devine la devise du cardinal Newman, qui est tellement belle. Corps ad corps locutor. Le cœur parle au cœur. L'Esprit Saint met dans le cœur de Jésus, qui vibre, qui bat tout en nous. Et ensuite, l'Esprit Saint nous conduit vers nos frères pour les rencontrer cœur à cœur, par des médiations diverses, toutes sortes de possibles. Mais, quelle que soit la médiation, il se joue quelque chose, c'est le cœur qui parle au cœur. Troisième raison. Parce que l'évangélisation, mes amis, c'est un miracle. C'est toujours une évangélisation réelle. Qu'un cœur s'ouvre à Jésus, c'est toujours un miracle. Rendez-vous compte. Vous dites une parole en passant. Quelqu'un vous pose une question, vous balbutiez quelques mots. Et voilà que la personne est touchée. Et que ce balbutiement fait son chemin en elle. Et devient une lumière pour cette personne. Ou encore, vous avez un sourire, tout ça, peut-être plus vrai que d'habitude, plus pur que d'habitude, plus ouvert, et votre sourire crée quelque chose dans la personne. Parce que elle le reçoit comme un sourire de Dieu. Rien. L'Esprit Saint a fait quelque chose pendant ce temps-là, à travers vous. Ou encore, une prière fervente. Et vous êtes le premier étonné parce que le lendemain, il s'est passé vraiment quelque chose. Comment cette prière de pauvre, cette prière qui n'est pas mystique pour deux ronds, mais comment ça se fait que ma prière porte un fruit? De l'ordre du miracle, pas le miracle officiel et donné. Mais c'est quoi le miracle? C'est quand tu agis dans la patte humaine. Alors, il agit tout le temps, mais au moment où il agit de façon plus directe, immédiate. Comment deux lignes d'évangile peuvent bouleverser une vie? La disproportion est vraiment le signe de Dieu, la signature. Et nous ne reposons pas là-dessus en disant, ben finalement, il n'y a plus rien à faire, le Seigneur va tout faire. Non, il faut que tu fasses cette petite chose que personne ne fera à ta place aujourd'hui pour cette personne concrète. Si tu rates le rendez-vous, tu mets l'évangile en panne. Et tu abandonnes une âme. Bon, le Seigneur la retrouvera bien un jour ou l'autre. Mais voilà, tu n'as pas répondu à la situation. Tu étais attendu, là. Dieu t'attendait, cette personne t'attendait. Et quel bonheur, non? Au contraire, tu étais présent, humblement, pauvrement, à ta manière à toi. Et là, il s'est passé quelque chose. Et tu dis merci. Tu dis pas je suis doué, parce que tu connais ta faiblesse, ta pauvreté, tes limites. Tu dis merci parce que à travers cette pauvreté qui la tienne, Dieu fait de grandes choses. C'est une servante de Marie. Qu'est-ce qu'elle dit à l'ange Gabriel? Me voici. m'advienne selon ta parole. C'est quoi selon ta parole? C'est que le Verbe éternel va entrer dans le monde par cette porte sainte et virginale de sa féminité, de son humanité. Vous croyez qu'elle peut faire ça? Bien sûr qu'elle ne peut pas. Mais elle peut se demander, me voici, qu'il m'advienne selon ta parole. Remarquez bien, elle ne dit pas oui. Souvent, Notre-Dame dit oui. Mais non, c'est plus pur, plus profond que ça. Quand tu dis oui, ça veut dire que tu as aussi un nom en réserve. Il y a peut-être pas lui, peut-être pas non. Ah, mais tout le Seigneur, tu te demandes merci parce que je t'ai dit oui. Mais c'est un bel effort. Hein. Mais non, non, mais tu dis, fiat, que cela advienne. Qu'est-ce que je peux désirer d'autre? C'est le sens même de ma vie. Je ne suis pas sur terre pour faire des bricoles. De toute façon, seront mis au cimetière. Je suis ici-bas pour faire advenir le règne, le royaume éternel. C'est aussi ce saint Paul qui signe toujours. Mais on signe au début de la lettre. On se voit. Paul, esclave de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, esclave de Jésus-Christ. C'est drôle qu'il mette les deux. Il ne peut être apôtre qu'en étant complètement lié, accroché, livré, donné, abandonné à son Seigneur. Amour fou de son Seigneur, comme nous disions tout à l'heure en tant que prêtre, avec ton péché. C'est à la base de cette évangélisation. C'est un amour contagieux. Alors Paul, vous connaissez l'histoire, chapitre 9 des Actes des Apôtres, quand Saint Luc raconte la fameuse conversion de Paul sur le chemin de Damas. Et Jésus a bien préparé son coup. Parce que d'un côté, il se révèle, il éblouit Paul par sa présence. D'un autre côté, il est en train de discuter avec un certain Anani, un bon chrétien, un bon gâteau de la paroisse de Damas. Il dit, allez, réveille-toi. J'ai quelque chose à te dire. Mais tu sais, tu vas trouver dans la rue droite un certain Saul de Tarse. Et bien, tu vas aller lui imposer les mains. Tu vas faire un chrétien. Alors, Anani dit, attends, est-ce que moi, c'est bien, faut que je t'explique. Alors, c'est un très mauvais choix. C'est un persécuteur. C'est intéressant, Anani, c'est une tentation de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La réponse de Jésus est quand même très belle. Va, fais ce que je te dis. Parce que pour moi, c'est un vase choisi, un instrument de choix. Mais en latin, et en grec, en latin c'est un vase, c'est une poterie. Une poterie. Dans l'Antiquité, une poterie c'est comme le plastique aujourd'hui, ça ne vaut rien du tout. Mais on a des tonnes. Il y a des petits plats, des grands plats, des plats creux, des plats plats, on met les olives, on met l'huile, on met l'eau, on met les grains, enfin, on a besoin d'un tas de récipients. C'est très intéressant pour les archéologues parce que ils n'ont pas toujours les couleurs, la fabrication, ça permet de les dater, on les trouve dans les fouilles archéologiques, c'est bien utile. Et même quand c'est cassé, ça sert encore. Parce que ça sert pour gratter, ça sert pour faire. On écrit un petit message à son amoureuse, on voilà, c'est une poterie, et on a gravé dessus un petit message. Ou bien on a gravé aussi la facture pour les commerçants. Voilà. Et Jésus dit quoi? Moi j'ai trouvé un bon outil, un instrument que j'ai choisi. Et la grâce, la gloire, la fierté de Paul, c'est justement comme Marie d'être le serviteur du Seigneur, l'esclave du Seigneur. L'importance qu'on demande à l'instrument, c'est d'abord d'être bien dans la main du Seigneur. C'est pas savoir s'il est outil, s'il est gros, s'il est bien astiqué, s'il coûte cher. Ça, c'est des détails. C'est des détails. Le plus bel instrument du monde, s'il n'est pas dans la main du Seigneur, il fera ses affaires à lui, il ne fera pas les affaires du Seigneur. Et un pauvre petit instrument de rien du tout, qui croit qu'il est de rien du tout, ce que plusieurs d'entre vous pensent d'ailleurs ce soir, le Seigneur dit, mais je m'en moque complètement. D'abord, tu ne connais pas le prix que tu as à mes yeux, donc je ne fais pas faire le calcul, c'est moi qui calcule. Tu te crois grand, tu es peut-être petit, tu crois petit, tu es peut-être très grand. Tu n'as pas la mesure. Tu es dans le cœur de Dieu, c'est ça qui est important. Mais pour Jésus, l'important, c'est que tu sois complètement dans ses mains. Que tu sois pour lui un instrument complètement. glorieuse et si discrète présence du ressuscité au milieu de nous, dans le Saint-Sacrement de son corps. Nous tenons sa présence à celui qui s'est livré totalement pour nous. Dans le silence, chacun de nous essaie de se livrer de nouveau à Jésus. Et pour cela, se livrer intérieurement à l'Esprit de Dieu.